Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, soldats hors normes comme peu d'armées en nombre, bravoure inouïe, mort en héros, les mots d'Emmanuel Macron pour Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello, les notes du baguette de Lanbiwe, les larmes des proches, le respect des personnes qui suivent le convoi, l'hommage aux commandos tués en libérant des otages au Burkina Faso la semaine dernière fut particulièrement vibrant ce matin aux Invalides, récit complet dans un instant. Le climat toujours plus tendu en Arabie Saoudite, deux stations de pompage visées par une attaque de drones ce matin près de Riyad. À l'étranger encore, le climat se dégrade aussi au Sri Lanka après les attentats antichrétiens de Pâques. Émeute contre les musulmans, un homme a été tué. Multiplication des litiges, mauvaise pratique des fournisseurs, tarifs durs à supporter pour les plus pauvres. Le dernier rapport du médiateur de l'énergie multiplie les alarmes. Jean Gobert est notre invité. Le Festival de Cannes, ouverture ce soir du 72e festival qu'on espère plus brillant que les précédents. Pour commencer, un film de zombies avec un acteur qui a toujours l'air de sortir du placard, le président du festival, Pierre Lescure.
Bill Murray montant les marches à Cannes pour l'ouverture et un film de zombies signé Jarmusch. Moi, j'aime bien ce premier degré mêlé de second.
Attendu sur la croisette dans les 10 jours à venir, Quentin Tarantino, Penélope Cruz, Alain Delon, Diego Maradona, le couple Trintignant à nous aimer. Pas de Luc Besson, il se débat dans les soucis d'argent. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Sa société Europacorp en procédure de sauvegarde.
Près de 90 millions d'euros de pertes, la société de Luc Besson en sursis. Et c'est tout le cinéma français qui s'inquiète, tant elle pèse lourd dans les exportations de films.
A tout à l'heure pour les détails Fabien. Dans ce journal encore, la mairie de Strasbourg incite à manger végétarien dans les cantines. Les menus sont moins chers. Il faut améliorer la prise en charge des femmes en cardiologie. Ce sera la chronique santé de Daniel Messager. Et la lumière LED mauvaise pour les yeux et le sommeil, rapport de l'Agence de sécurité sanitaire. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, quelle est la tendance?
Eh bien, une tendance plutôt ensoleillée avec de belles éclaircies pour cet après-midi, mais aussi beaucoup de vent. On a quand même quelques nuages qui commencent à bourgeonner entre le Grand Est, la Côte d'Azur et la Corse. Sur le relief de la Corse et des Alpes du Sud, ces nuages pourront aller jusqu'à donner quelques averses cet après-midi. Les températures sont plutôt douces sur le sud, 19 à 26 degrés, mais il fera 15 à 21 degrés sur le nord.
Rendez-vous Sébastien avant 13h30. Avant cela, hommage à deux beaux mâles, François Morel, Patrick Bruel. Vous comprendrez pourquoi. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Chaque président a sa fabrique des héros. Pour Emmanuel Macron, entre cérémonie aux Invalides et entrée annoncée au Panthéon, il y a la figure de l'écrivain français avec Jean d'Ormesson, ceux qui ont fait et raconté la guerre, ceux de 14 bientôt au Panthéon, et trois hommes qui se sont sacrifiés dans la lutte contre le terrorisme. Arnaud Beltrame, l'homme qui s'était proposé comme otage à la place d'une femme dans le supermarché de Trèbes, et les deux commandos morts le 10 mai dernier au Burkina Faso en libérant quatre otages. Écoutez le président Emmanuel Macron ce matin devant leur cercueil recouvert du drapeau tricolore dans la cour des Invalides.
Nous ne céderons rien des combats pour lesquels vous vous êtes engagé et avez donné votre vie. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Berton-Cello, la mort ne vous faisait pas peur, parce que vous aviez, ancré en vous, dans le mystère insondable de vos âmes, la volonté de servir les autres, y compris au prix de votre propre vie. Parce que vous aviez fait le choix intime de consacrer cette existence à une cause plus grande que vous, celle de la France, celle de la liberté. Une vie arrêtée n'est pas une vie perdue. Une vie donnée n'est pas une vie perdue. Celui qui meurt au combat, dans l'accomplissement de son devoir, n'a pas seulement accompli son devoir. Il a rempli sa destinée.
Et les deux sont faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Cyril, en direct des Invalides.
Bonjour.
Vous avez suivi cette cérémonie ce matin, cérémonie très émouvante. Hein.
Entre terre et mer, le son de la cornemuse du Bagan de Lanbiwe brise le silence de cette cour d'honneur des Invalides à l'arrivée des deux cercueils. Dans son discours, Emmanuel Macron n'a pas oublié de rendre hommage au guide béninois des ex-otages qui a été assassiné par les djihadistes, mais également à la dernière otage française dans le monde.
Et je pense en cet instant à Sophie Petronin, toujours aux mains de ses ravisseurs. Nous ne l'oublions pas. La France ne l'oublie pas. Car la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances, et fût-ce à l'autre bout de la planète. Ceux qui attaquent un Français doivent savoir que jamais, notre pays ne plie que toujours. Ils trouveront notre armée, ses unités d'élite, nos alliés sur leur chemin.
Emmanuel Macron a ainsi répondu à ceux qui considéraient que sa place n'était pas auprès des ex-otages samedi. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, eux, sont morts en héros pour les sauver. Le chef de l'État a tenu à décorer ses soldats hors normes.
Premier maître Cédric de Pierrepont, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
La mort à jamais vous unit, a-t-il dit. Les deux cercueils, tout au long de la cérémonie, au centre des Invalides, étaient reliés par une sangle de vie, sangle que les nageurs de combat utilisaient à l'accoutumée. Enfin, les deux cercueils ont quitté la cour, l'un derrière l'autre, au son du chant militaire loin de chez nous, entonné en chœur par leurs frères d'armes.
Cyril Graziani en direct des Invalides avec les moyens techniques de Cyprien de Limerville. Avant d'entrer aux Invalides, les cercueils ont traversé le pont Alexandre III à Paris sous le regard des passants. Yann Gallic, vous étiez au milieu de ces gens qui voulaient rendre eux aussi un dernier hommage à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello.
Des anciens combattants tenant fièrement le drapeau tricolore, des familles de militaires ou de simples anonymes qui ont applaudi les cercueils lors de leur passage sur le pont Alexandre III. Ils étaient des centaines à suivre ensuite la cérémonie sur un écran géant dressé devant l'hôtel des Invalides. Dans le public, l'émotion était perceptible, en particulier lorsque le président de la République a salué les familles des deux soldats français.
Les gens étaient vraiment tristes de voir partir ces deux jeunes gens en pleine vie. C'est des destins brisés, quoi, pour eux, pour leur famille. Alors je peux comprendre que c'est leur métier, que effectivement ils savent dès qu'ils s'engagent que il peut malheureusement se passer quelque chose. Mais je sais pas. Cette situation, elle est un peu difficile à comprendre, pour être franche.
Et dans la foule, ils sont nombreux à penser que la mort des deux soldats aurait pu être évitée, mais l'heure n'est plus à la polémique, selon Béatrice, qui est venue exprès de Lille pour assister à cet hommage.
Il faut vraiment rendre hommage à ces gens qui donnent leur vie, qui passent toute leur vie justement à défendre les Français. Les circonstances sont tellement dramatiques en plus, c'est vrai que c'est d'autant plus important. Et puis ça nous touche beaucoup parce qu'on a notre fils aîné qui est dans la Marine nationale, donc on s'est beaucoup intéressé à ce milieu, donc on se sent très proche d'eux.
Pour Béatrice, cette cérémonie était aussi une manière de rendre hommage à tous les militaires qui, chaque jour, dit-elle, risquent leur vie pour leur pays.
Merci Yann Gallic en direct avec nous. La lutte contre le terrorisme et l'enquête contre l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. 5 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête. Vérification liée aux armes détenues par le tueur Shérif Shekhat. Très loin de Paris, au Sri Lanka, les terroristes sont en train d'obtenir ce qu'ils cherchent, l'engrenage de la haine. Le dimanche de Pâques, dans cette île au sud-est de l'Inde, la communauté chrétienne avait été visée. Des attaques suicides contre 3 églises et 3 hôtels. Depuis, le climat est irrespirable au Sri Lanka. Les violences anti-musulmans se multiplient. Sébastien Farsi, vous avez interrogé le propriétaire d'une grande usine totalement détruite par ces violences. Précisons qu'un commerçant vient d'être tué dans le nord-ouest du pays, Sébastien.
Il y a un an, Ali Faone a ouvert une grande usine de confection de pâtes à Gambola, à une centaine de kilomètres au nord de Colombo. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Tout est parti en flammes après l'attaque de 200 hommes violents et bien organisés.
Ils avançaient rapidement et ont attaqué la mosquée et les commerces tenus par les musulmans. Ils sont arrivés devant mon usine avec 2 camions remplis de pneus. Ils ont mis le feu aux pneus et les ont placés sous les machines. 7 de mes employés se trouvaient à l'intérieur. Ils étaient effrayés et ont fui par une fenêtre située à 7 mètres de hauteur. 3 sont blessés et se trouvent à l'hôpital.
Cet homme d'affaires musulman estime avoir perdu 3,5 millions d'euros dans ce saccage. Mais il garde l'espoir que ces extrémistes ne gagneront pas.
Après les attentats du dimanche de Pâques, beaucoup accusaient tous les musulmans d'être des terroristes. Aujourd'hui, je ne veux pas tomber dans le même raccourci. Je sais que ce sont des extrémistes singalais qui essaient de nous diviser et cela ne doit pas arriver.
15 personnes ont été arrêtées par la police, dont un extrémiste bouddhiste. Le couvre-feu est toujours en place dans cette zone du nord de Colombo et les réseaux sociaux bloqués dans tout le pays. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
En Arabie Saoudite, deux stations de pompage visées par une attaque de drones près de Riyad. Cela concerne de près le géant pétrolier Aramco qui doit cesser ses opérations sur un grand oléoduc. Est-ce une conséquence du conflit au Yémen, tout proche? En tout cas, une télévision contrôlée par les rebelles du Yémen parle d'une opération militaire contre des cibles saoudiennes.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
L'actualité de la société en France est cet acte militant assumé pour les repas végétariens. À Strasbourg, dans les cantines scolaires, ce type de menu sera un peu moins cher que les autres désormais. Solène Delarquier.
Dans l'assiette de Justine, du chou-fleur, des pommes noisettes et une crêpe aux champignons.
Moi, je suis végé. Mes parents, ils trouvaient que c'était pas bien de manger tous les jours du poisson. En plus, là, on devait tuer des animaux et tout ça.
Et toi, est-ce que ça te plaît?
Bah oui, c'est souvent des repas que j'ai jamais mangés.
À côté d'elle, Margot n'est pas convaincue.
Moi, j'aime bien manger les animaux.
4% des 11 000 repas journaliers dans les cantines strasbourgeoises sont végétariens. Avec ce nouveau tarif, Françoise Buffet, adjointe au maire en charge de l'éducation, espère convaincre plus de parents.
Manger végétarien, c'est mieux pour la santé, pour l'environnement. C'est un effet levier extrêmement important.
La diététicienne Virginie Berling veille au menu.
On va jongler avec les apports protidiques des œufs, des produits laitiers. On va mettre l'accent sur certaines légumineuses. Le soja apporte également des protéines.
L'option végétarienne est prise pour l'année, mais il est possible de revenir au menu standard ou sans porc si ça ne convient pas.
Nous accompagnerons les familles et ensuite les enfants. Mais pas que sur la question du végétarien, sur la question du tri des déchets, mais également du gaspillage alimentaire, ne pas trop se servir au self.
L'idée est donc de sensibiliser, mais aussi d'inciter les agriculteurs alsaciens à faire plus de bio et diversifier leur production. Ils fournissent aujourd'hui la ville à hauteur de 30%. Voilà.
Nous passons des cantines aux compteurs électriques et aux compteurs de gaz avec l'invité du journal de 13h. Bonjour Jean Gobert.
Bonjour.
Vous publiez votre rapport d'activité 2018 dans ce secteur de l'énergie avec ce chiffre. Près de 17 000 dossiers enregistrés, dossiers de litige, hausse de 37% en deux ans, c'est bien cela?
Oui.
Que se passe-t-il?
Ah ben écoutez, je crois que il n'y a pas une seule raison, il y en a plusieurs. D'abord, le marché, c'est beaucoup plus animé, comme on dit. Donc, ça crée parfois un peu de difficultés.
Plus animé, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que, par exemple, 4% de plus de consommateurs ont choisi d'aller vers un autre fournisseur qu'EDF en électricité. Donc, ça excite des appétits. Les opérateurs qui sont plus nombreux qu'avant, aujourd'hui, on en a plus de 30 opérateurs. Il y a quelques années, il y a 5 ans, on en avait 12. Se battent aussi pour récupérer des clients. Ils mettent sur le terrain un certain nombre de brigades, j'allais dire, des démarcheurs, qui tous ne sont pas assaillis par les scrupules, y compris d'ailleurs, on ne les aide pas beaucoup, dans la mesure où ils sont payés qu'à la commission, et quand on paye les gens seulement à la commission, on a du mal à pouvoir parler de rigueur et de vertu des uns des autres. Et puis, ça fait aussi un certain nombre de litiges qui sont liés à des changements de fournisseurs inexpliqués. En gros, vous avez demandé à changer de fournisseur et vous ne voyez rien venir. Par contre, c'est pas étonnant parce que c'est votre voisin qu'on a changé et lui qui n'avait rien demandé.
Donc la multiplication des acteurs ne crée pas forcément de la clarté. Qu'est-ce qui crée litige? C'est des factures, c'est des raccordements? Où sont les problèmes?
Un peu tout. Les factures, les erreurs de facture, ça continue d'exister, mais j'allais dire, c'est récurrent.
On parle d'erreur ou on parle d'arnaque?
Alors, vous savez, il y a trois niveaux. Il y a l'erreur, il y a la mauvaise pratique, il y a l'arnaque. L'erreur, c'est quand il y a une erreur de comptage, ça peut exister. Il y a une retranscription qui n'a pas été bonne, ça peut exister. Il y a des mauvaises pratiques. En particulier, quand on est dans le démarchage, dans un certain nombre de cas, on a des mauvaises pratiques. Par exemple, on propose une offre en ne parlant que du prix de l'énergie pure, mais pas des taxes qu'il y a autour, pas des du raccordement, de l'acheminement, des câbles. Voilà, ça c'est une mauvaise pratique. Et vous avez après l'arnaque, quand par exemple on est capable de vous dire, monsieur signez ou madame signez là, ça n'a aucune importance, et en fait on vous fait signer un contrat. Et voilà, alors, si vous voulez, les trois niveaux. Quoi.
Pardon, puisqu'on est là aussi pour alerter les gens, il y a des entreprises en particulier, particulièrement coupables de ces mauvaises pratiques, voire arnaques?
Alors sur les mauvaises pratiques et les arnaques, chacun, comme on dit, il jette la patate chaude. La réalité, c'est que ils me disent souvent, mais vous comprenez, c'est pas nous, on a des sous-traitants qui ont un peu dérapé. Par définition, quand moi, dans une autre activité, j'emploie des sous-traitants, j'en suis responsable. Et je leur dis, vous êtes responsable, ce sont vos contrats. Donc, quelque part, vous êtes aussi responsable sur la façon dont vous les rémunérez. Oui. Quand les gens se rémunéraient essentiellement ou seulement à la commission, on ne peut pas leur demander la vertu en plus.
Jean Gobert, vous qui êtes médiateur de l'énergie, ça a été un des sujets importants dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que, notamment pour les plus pauvres, l'énergie est trop chère en France?
Ah oui. Je crois que Je ne sais pas par rapport au marché si elle est trop chère, mais en tous les cas, je sais par rapport aux capacités financières d'un certain nombre de familles, elle est devenue trop chère. En rajoutant le fait quand même que malheureusement, c'est à double peine. Parce que quand vous avez peu d'argent, vous êtes mal logé.
Oui.
Et vous êtes souvent dans un logement plus énergivore. Et donc, vous payez plus.
C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont du mal à payer la facture est en augmentation ?
Oui.
Alors, vous le mesurez, vous avez quelques chiffres
alors,
là-dessus?
On est un peu plus de 12 millions de familles, de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire à 5 millions et quelques, 4, 5 millions de familles, puisque ça dépend combien.
Oui.
Ça a tendance à monter. Alors, d'une année sur l'autre, c'est difficile à comparer parce que quand l'hiver est plus rigoureux, on a une flambée.
Oui.
Et quand l'hiver est un peu moins rigoureux, eh bien, parce que chez nous, les Français sont honnêtes, d'une façon générale. Eh bien, les gens arrivent à payer, donc on en voit moins. Mais la réalité, c'est quand même qu'on a aussi un nombre considérable de logements passoires et que ce sont les mêmes qui sont dedans.
Est-ce que ça signifie le système de fixation du prix du gaz, notamment, est très complexe? Est-ce qu'il faut le changer de votre point de vue?
Oh, c'est pas le gaz qui est le plus complexe, c'est sans doute l'électricité aujourd'hui. Hein.
Et il faut le changer.
Alors, le ministre a dit qu'il allait le changer. Je pense qu'il vaut mieux un thermomètre qui soit juste. Et dans ce cas-là, il a déjà été changé. Je pense que la façon dont il a été changé en 2015 n'était pas la bonne. Et effectivement, il faudrait revenir à quelque chose qui correspond plus aux charges des opérateurs qu'au système qu'on a mis en place.
Y a-t-il beaucoup de litiges avec le nouveau, enfin de moins en moins nouveau, compteur Linky?
Non. En réalité,
il y a une acceptation.
Alors nous ne sommes pas sur l'acceptation.
Accepté.
Je voudrais quand même rappeler que jamais le taux de refus des compteurs Linky en France n'a dépassé 2%. On a l'impression que la France est à feu et à sang. Jamais il n'a dépassé 2%. Qu'on a fait beaucoup de foin sur 450 maires qui ont pris des arrêtés illégaux. On a oublié qu'il y a 35 000 maires en France. Et les autres, ils sont aussi concernés par la
situation.
Donc
pour le médiateur que vous êtes, ça n'est pas un problème.
Voilà. Le problème que nous avons avec le compteur Linky, c'est que parfois, les gens se plaignent d'une augmentation de la facturation. La réalité, c'est que les anciens compteurs, en vieillissant, comptent souvent moins. Et donc là, ils paient.
Mais
c'est quelque chose qui est très connu chez les opérateurs d'eau. C'est pour ça qu'il y a longtemps qu'ils changent les compteurs au bout de 15 ans.
Merci Jean Gobert d'être venu dans les
studios
de France Inter répondre à nos questions. Alors que le projet de loi pour une école de la confiance est examinée à partir d'aujourd'hui au Sénat. La défiance des enseignants à l'égard du ministre de l'Éducation semble atteindre des sommets. Rappel d'abord, dans ce projet de loi, il y a la scolarité obligatoire des 3 ans, l'exemplarité nécessaire des enseignants, ce que beaucoup voient à tort ou à raison comme une menace sur leur liberté d'expression. Contester aussi le regroupement ponctuel des écoles et collèges dans des établissements publics des savoirs fondamentaux. Que devient le directeur d'école? C'est le motif d'inquiétude. Cette disposition a été supprimée par les sénateurs en commission. On verra quel sera son avenir. Alors le lien est-il en train de se rompre entre le ministre et les profs? Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Une étude du syndicat modéré UNSA Éducation le suggère très fortement.
Oui, la défiance est considérable. 20% des personnels de l'éducation étaient en accord avec les choix politiques de leur ministre l'an dernier. Ils ne sont plus que 10% cette année et même 6% seulement chez les professeurs. L'enquête a été menée en mars, au début de la fronde contre la loi Blanquer et contre la mise en place de la réforme du lycée, des résultats qui inquiètent Frédéric Marchand, secrétaire général de l'UNSA Éducation.
C'est la première fois sur cette 7e édition du baromètre qu'on a une telle rupture dans les résultats, en particulier sur la question de l'accord avec les choix politiques. On sentait bien qu'il y avait l'expression de beaucoup d'inquiétude, parfois de colère, parfois d'incompréhension aussi, et que les problèmes montaient. Après, on y voit aussi des éléments positifs dans le baromètre, hein, parce que nos collègues continuent à se déclarer heureux d'exercer leur métier et ils continuent à dire qu'ils aiment leur profession à 93%. Donc on a des éléments positifs, mais il faut que le ministre réoriente certaines choses et en tout cas se rapproche à un moment donné de ce que disent les collègues et qu'ils l'entendent.
Le baromètre montre aussi une dégradation des conditions de travail et un sentiment d'absence de reconnaissance beaucoup plus fort que les années précédentes. Le ministre aura l'occasion de répondre aux inquiétudes toute cette semaine lors du débat au Sénat.
Comment améliorer la prise en charge des femmes dans le traitement et la prévention des maladies cardiaques? C'est notre chronique santé du jour. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Sur les personnes qui meurent chaque jour en France d'une maladie cardiovasculaire, plus de la moitié sont des femmes. Le cœur des femmes serait-il plus vulnérable? Qu'en dites-vous, Daniel?
Alors, c'est en tout cas la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 65 ans et chez les plus jeunes. On voit aujourd'hui les dégâts du tabagisme pour celles qui ont commencé à fumer vers 16-17 ans. Mais doit-on mourir à 50 ans car un infarctus a été mal diagnostiqué? Le professeur Claire Mounier-Veillé est cardiologue, chef de service au CHU de Lille, et elle mène ce combat pour le cœur des femmes depuis plusieurs années. Elle tire aujourd'hui ce bilan. Alors, Alors, premièrement, il y a un mauvais diagnostic car les symptômes d'alerte cardiaque peuvent être différents que ceux des hommes.
Les femmes ont des symptômes spécifiques parce que leur maladie est différente. Elles ont des lésions coronariennes différentes, un essoufflement pour des efforts modérés de la vie quotidienne, des douleurs entre les deux épaules, parfois avec une envie de vomir. Ça peut être aussi des palpitations à l'effort. Si cette femme présente ces symptômes-là alors qu'elle est exposée à un facteur de risque, il vaut mieux appeler pour rien que de ne pas appeler. Nous, on est là pour ça, sinon on change de métier.
Alors Daniel, cœur des hommes, cœur des femmes, la vision sur ces maladies n'est effectivement pas la même. On retrouve à votre micro le professeur Claire Mounier-Veillé.
On est encore dans les préjugés sur les maladies cardiovasculaires parce que nous avons appris la médecine sur des cohortes d'hommes. La recherche clinique s'est faite principalement sur des cohortes d'hommes. Ça sera peut-être moins le cas avec les nouvelles générations de médecins où on s'efforce vraiment de donner une information sur les spécificités féminines du risque. Mais on est encore dans des préjugés à la fois médicaux mais également au niveau des femmes. On avait fait une enquête IFOP avec la Fédération française de cardiologie il y a un an. Elles savent qu'elles peuvent être touchées. Mais au moment où ça se passe, elles vont retarder l'appel. On sait qu'il y a un retard moyen d'appel qui entre une demi-heure et trois heures pour un infarctus du myocarde.
Et en termes de recherche aussi, les femmes ne jouent toujours pas dans la même cour. Il existe moins d'essais cliniques les concernant.
On a 30% de femmes dans les essais thérapeutiques. Et aujourd'hui, on voudrait mettre en place des centres labellisés cœur de femmes pour prédire l'infarctus. On a fléché depuis trois ans des bourses de recherche dédiées au cœur des femmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de recherche genrée. Donc en France, on a du retard, mais on va le rattraper, il n'y a pas de souci.
Et c'est vraiment nécessaire pour mettre fin à cette inégalité. En fait, le professeur Claire Mounier-Veillé a trouvé la bonne formule. Les femmes ne doivent pas être traitées comme des hommes, mais comme des femmes avec leurs spécificités, mais avec la même attention. Son livre « Mon combat pour le cœur des femmes » sort chez Marabout.
Et votre chronique Daniel Messager, on la retrouve à la page du journal de 13h sur franceinter.fr. Dans la série « Petites et grandes misères de la vie au XXIe siècle, les dangers de l'éclairage LED ». Ce type de lumière omniprésent désormais dans notre quotidien. L'Agence nationale de sécurité sanitaire publie un rapport à son propos, Lisa Guyenne. Et les LED ont des effets néfastes sur la vision et le sommeil.
Une première étude avait été réalisée en 2010. Celle-ci vient en confirmer les résultats. La lumière émise par les LED est toxique pour nos yeux. Elle peut conduire à une baisse de la vue et augmente à terme le risque de contracter la DMLA, une dégénérescence de la rétine qui constitue la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Alors il ne s'agit pas de l'éclairage domestique aux couleurs plutôt chaudes. En revanche, le problème se pose pour les LED les plus riches en lumière bleue, les lampes torches, les phares de voiture et bien sûr les écrans, smartphones, tablettes, ordinateurs auxquels les enfants et adolescents sont particulièrement sensibles car leurs yeux filtrent moins bien la lumière bleue que les adultes. Mais les adultes ne sont pas épargnés non plus. Nous consultons de plus en plus ces écrans, que ce soit au travail ou avant d'aller dormir. Or, leur lumière influence aussi notre organisme et dégrade la qualité de notre sommeil. Il existe bien des lunettes anti-lumière bleue, mais leur efficacité reste très partielle selon l'expertise. L'ANSES recommande donc de limiter l'exposition des plus jeunes, de limiter aussi l'intensité des phares de voiture et d'établir de nouveaux seuils de tolérance.
Dans l'actualité économique, un chiffre, le Brexit ne fait pas flamber le chômage au Royaume-Uni, loin de là. Le taux de chômage est au plus bas depuis 1974, à 3,8% au premier trimestre. Beaucoup d'emplois précaires, hein, c'est vrai, en Grande-Bretagne. Vous aurez reconnu le générique du Festival de Cannes. Nous y sommes. Alors de la vie assez large, la précédente édition du Festival était terne sur les écrans comme sur le tapis rouge. La 72e édition s'annonce comme assez brillante. On verra si les promesses sont tenues. Ça commence ce soir. Côté tapis rouge, il y aura un hommage à Alain Delon. On verra Sylvester Stallone, Elton John, le couple mythique Trintignant-Anouk Aimé, entre autres. Dans la sélection officielle, les grands noms se poussent du coude. Almodovar, Bellocchio, Desplechin, les Dardenne, Dolan, Loach, Malik, président du jury, le cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu. Et dans le jury, ici au micro d'Eva Bétan, l'auteur de bande dessinée Enki Bilal, quelle idée se fait-il de son rôle ?
Moi, ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est d'arriver neuf, être comme une espèce de d'éponge qui va prendre chaque histoire, chaque style, chaque performance d'acteur comme un cadeau, comme une espèce de déflagration aussi qui va laisser des traces. Je trouve qu'on est dans un monde extrêmement formaté, rempli de débats violents, manichéens, hein, il y a le bien, il y a le mal, c'est blanc, c'est noir, et il n'y a plus de place pour la nuance. Et cette nuance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'on va vivre justement de la nuance pendant 15 jours, on va voir des films qui sont avant tout des expressions d'artistes.
Quand vous voyez des films, vous voyez justement des visions d'artistes. Est-ce que la manière dont ça vous nourrit peut un jour, sans vous en rendre compte, être dans une de vos planches?
Absolument, c'est souvent très mystérieux, mais effectivement, hein, ce que je vais voir à Cannes va vraisemblablement influencer la suite de ma création. C'est une évidence. Comme ça a toujours été le cas, le cinéma, pas forcément à un festival. Je pense que je vois une vingtaine de films par mois. C'est pas mal. Le cinéma, aujourd'hui, m'inspire davantage pour créer mes bandes dessinées que la bande dessinée elle-même.
La cérémonie d'ouverture à 19h30, retransmise, tout comme le film d'ouverture The Dead Don't Die de Jarmusch, dans quelques 550 cinémas à travers la France. Avant même les premières projections à Cannes, il y a déjà un perdant dans le monde du cinéma. C'est Luc Besson. Sa société de production et de distribution EuropaCorp ne sort pas du rouge, loin de là. Fabien Cazot, vous nous le disiez dans les titres, hein, le tribunal de commerce de Bobigny ouvre une procédure de sauvegarde.
Oui, la justice accorde 6 mois à la société de Luc Besson pour redresser la situation. C'est une période initiale, précise le tribunal, qui pourrait éventuellement être prolongée. Ça s'appelle un sursis. Il y a près de 90 millions d'euros de pertes annuelles à éponger. Des pertes notamment creusées par le budget pharaonique de sa dernière grosse production, Valérian, un film qui a mal marché aux États-Unis, mais qui a quand même tiré vers le haut les exportation de cinéma français dans le monde entier l'année dernière, en 2017 plutôt, et c'est tout le problème selon Serge Toubiana qui préside Unifrance, chargé de vendre nos films à l'étranger. Luc Besson pèse très lourd à l'export. Invité de notre émission On n'arrête pas l'écho ce week-end, Serge Toubiana prenait l'exemple justement de Valérian en 2017.
Sur 80 millions d'entrées, 50 étaient faits par un seul film, Valérian, le film de Luc Besson. Donc une année avec un film de Luc Besson et une année sans film de Luc Besson, ça crée un différentiel décisif. Et il faut s'habituer à l'idée qu'il n'y en ait pas tous les ans ou qu'il n'y en ait plus.
Inquiétude pour l'ensemble de la filière. Unifrance craint qu'EuropaCorp ne disparaisse du paysage pendant au moins les 3 ou 4 prochaines années. Seul un film, Anna, est pour l'heure attendu. Ce sera le mois prochain.
Voilà pour les déboires de Luc Besson alors que s'ouvre le Festival de Cannes. Juste après ce journal, la marche de l'histoire consacrée à la censure au cinéma. Et sur franceinter.fr, Delon et Cannes, Je t'aime moi non plus, récit d'Anne Odigier. Il y a des anniversaires qui cristallisent un peu plus que d'autres le passage du temps. Si vous étiez ado au début des années 90, peut-être avez-vous participé à la Bruel Mania. Le pic atteint en 1991 sur les Champs-Élysées. France Inter, Denis Astagnaud, 8 septembre 91.
Patrick Bruel ne peut plus faire un pas dans la rue sans être assailli par ses fans. L'acteur-chanteur voulait manger dans une pizzeria. On a frôlé l'émeute et Bruel a dû renoncer à sa pizza et se réfugier dans un hôtel. Deux admiratrices de la nouvelle idole des jeunes, à peine remises de leurs émois.
Il y avait des nanas qui montaient sur les voitures, qui essayaient de grimper jusqu'au restaurant. Il y en avait qui criaient « Patrick, chante-nous une chanson ». Franchement, c'était la folie. Il est monté dans une chambre en haut et là, il nous a parlé. Et alors sur les voitures, c'était grave. Tout le monde montait sur les voitures, chantait, hurlait. Des voitures défoncées. Hein.
Et alors pourquoi on parle de la Bruel Mania aujourd'hui? Eh bien parce que Patrick Bruel a aujourd'hui 60 ans. Bon anniversaire à lui. Et puis après Bruel, un autre sexe symbole. François Morel, notre François à nous qu'on aime sur France Inter. Molière du meilleur comédien hier soir pour son spectacle J'ai des doutes.
Il voulait faire l'amour, elle voulait faire la guerre. Total, elle a fini pucelle à Orléans.
Voilà François qui parle de Jeanne d'Arc dans cet extrait du spectacle. J'ai des doutes, bravo à lui.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Hormis quelques petits cumulus qui se développent cet après-midi entre l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, la Côte d'Azur et la Corse, c'est un ciel tout bleu et un soleil généreux qui règne sans partage. Sur la façade est, les belles éclaircies restent tout de même largement prédominantes. Sur le sud des Alpes et le relief de la Corse, les nuages sont plus épais et peuvent lâcher une petite averse passagère. Quelques débordements d'averses peuvent aussi glisser en fin de journée et soirée vers les plages des Alpes-Maritimes. Sur le relief, ces averses seront plus nombreuses la nuit prochaine et pourront même donner de la neige à assez basse altitude, des 900 mètres sur les hauteurs de la Corse. Côté température, les maximales sont un peu justes sur la moitié nord avec 15 à 21 degrés cet après-midi, mais il fait plutôt doux dans le sud avec jusqu'à 26 degrés. La bise est assez sensible cet après-midi avec des rafales avoisinant 50 à 70 km